Bonjour, Odile avec vous dans l'émission Passionnément Vôtre de 16h30 à 18h sur Fréquence Mistral 99.3. Un nouvel invité vient nous parler de la passion qui l'anime. Et comme pour me faire mentir, eh bien aujourd'hui c'est une émission spéciale. Nous ne sommes pas mercredi et c'est la surprise du jour puisque j'ai invité Hugues de Goers, Hugues de Goers que l'on connaît à Digne pour ses exploits, ses voyages puisqu'il y en a eu plusieurs. Donc on va faire connaissance avec Hugues dans un petit moment, juste après cette introduction musicale. Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral et surtout bonjour à mon invité Hugues de Goers que nous avons déjà reçu à Fréquence Mistral pour son premier voyage. Bonjour Hugues.
Bonjour.
Alors, pardon.
Fréquence Mistral de m'inviter au retour de ce voyage, qui est le deuxième grand voyage que je réalise. Je suis rentré maintenant il y a bientôt 4 mois, mais bon, tout est encore très très vivant dans ma tête.
Oui, il y a eu un hommage quand même. La ville de Digne vous a accompagné pour le départ. Nombreux étaient vos amis devant la mairie de Digne-les-Bains et votre retour a été salué un peu plus. On vous a laissé vraiment le temps de laisser vous réadapter à la ville de Digne.
Oui, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que d'avoir été accueilli de la même façon qu'à mon départ et avoir pu regrouper tous les amis autour de mon vélo, puisque cette fois-ci j'ai ramené le vélo. Et voilà, c'était une belle conclusion, quand même très très belle conclusion de ce voyage. Et alors, je remercie la ville pour mon départ, pour mon retour.
Alors on va revenir à ce qui vous a poussé à faire ce voyage déjà. Et c'est vrai qu'il y en a eu un beaucoup plus court, même s'il était déjà très long. C'était de Digne-les-Bains au Sénégal. C'était il y a quelques années ?
Il y a 2 ans maintenant.
Alors, qu'est-ce qui vous a poussé déjà à partir, faire ce périple en vélo, puisque ça, c'est pas courant.
Alors, tout d'abord, tout à l'heure, vous avez parlé d'exploits. Ça m'a un petit peu interpellé, parce que je ne pars pas du tout, et je souhaite pas partir dans cet esprit d'exploit, de gagne. Je pars pas contre un objectif. Je pars simplement pour vivre, savourer la chance qui m'est donnée de pouvoir réaliser ces voyages en croisant vraiment un maximum de monde de façon toute naturelle, sans le chercher. Voilà, c'est le fond de ce qui me donne envie de partir et de repartir. Le premier voyage, je l'avais décidé suite à un voyage solidaire que j'avais fait au Sénégal une année avant. Et j'avais dit aux amis que j'avais rencontrés là-bas, puisque j'avais appris quelques années, un tout petit peu avant, qu'il était possible d'aller à vélo sur du goudron de Digne, de la mairie de Digne, jusqu'à Tambacounda, dans l'est du Sénégal. Je me dis ben pourquoi pas partir, et j'avais dit à mes amis au Sénégal, je reviendrai un jour, mais je reviendrai en vélo. Et le voyage là s'était très bien passé, un voyage riche, j'en ai déjà parlé il y a quelques lors de mon précédent retour, et je m'étais aperçu à cette époque que je suivais le chemin des avions de l'aéropostale sur la côte, j'allais de ville en ville, quand on lit un peu les romans de Saint-Exupéry et d'autres écrivains qui ont écrit sur cette aventure. On revient un petit peu quand on passe sur les lieux décrits, c'est assez extraordinaire. Et je m'étais dit, ben, le prochain voyage, je repars par là-bas, et cette fois-ci, si je trouve la possibilité de traverser l'océan, je continue jusqu'au bout, jusqu'au terme de ce qu'était le voyage de ces avions à Santiago du Chili. Et j'ai eu la chance l'été dernier de rencontrer quelqu'un dans un petit village de montagne, ici en France, qui m'a dit, j'ai un bateau, il est au Sénégal, je traverse au mois de février. Si le 1er février, tu es à Ndangan, dans le sud, dans le Sinsaloum, au Sénégal, il n'y a pas de problème, je t'embarque. Et c'est comme ça qu'on est parti à trois sur un catamaran, qu'on a traversé très facilement l'océan, et que mon voyage a été sans aucune difficulté particulière jusqu'au bout de ce que j'avais prévu.
Alors comment on se prépare justement pour un tel voyage ? Donc vous étiez parti pour 6 mois pour Santiago du Chili de novembre 2013 à juin 2014. Vous êtes revenu donc 7 mois et demi plus tard. Ça demande bien sûr, vous étiez rodé puisque vous aviez déjà ce premier voyage en souvenir. Est-ce qu'il y a eu des choses à réadapter ? Comment on se prépare psychologiquement, physiquement, matériellement ?
En fait, suite à ce que j'ai le plus appris dans ce premier voyage, c'est que voyager en vélo est une chose extrêmement facile s'il n'y a plus la contrainte de temps. Je suis retraité, donc financièrement déjà, il n'y a aucun souci de ce côté-là parce que la retraite tombe. Donc on peut même pas parler. Des gens me posent la question, qu'est-ce que vous coûte des voyages comme ça ? Un voyage comme le dernier que j'ai fait me coûte moins cher que de vivre en solitaire ici à Digne. Donc voilà, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, en ce qui concerne la préparation, oui, j'ai appris que c'est pas la peine de trop préparer. Lors de mon précédent voyage, j'avais étudié un petit peu le Sahara occidental, je me disais de telle ville à telle ville, 200 km sans ravitaillement, il fallait que je prenne de l'eau, il fallait que je prenne ceci, que je prenne cela. Le premier voyage s'est pourtant passé tellement facilement, malgré les grosses difficultés que j'avais rencontrées avec les vents de sable le long de la côte du Sahara occidental, que cette fois-ci, je me dis, mais il n'y a pas de problème, les portes vont s'ouvrir, on verra au jour le jour. Et c'est un peu dans cet esprit que je suis parti. Et vraiment, je me suis laissé porter. J'ai peut-être une étoile au-dessus de moi qui me protège, qui me guide et qui me sort à chaque fois des difficultés par le bon côté. Mais jusqu'au bout, chaque jour a été un moment de bonheur, un moment de découverte. Et il n'y avait pas grand-chose à préparer. J'avais quand même, si, préparer un peu de timing. Il fallait que le 1er février, je sois à Ndangan. Donc, on part pas à vélo comme ça en disant, le 1er février, je serai là-bas au Sénégal. Donc, on time un peu les choses. Mais après, on adapte à la limite au niveau timing. Si j'avais été coincé à un moment donné, maintenant, je sais que partout, on n'est plus dans l'aventure d'il y a 50 ans. Partout, on trouve un taxi, on trouve un bus, on trouve, bon, voilà, on part en vélo, mais si vraiment je suis coincé par le temps par rapport à un rendez-vous, ben, je trouve un taxi qui me fait faire 100 km et je récupère une journée ou deux journées. Donc je gère au quotidien. Et puis il y a aussi une chose qui permet vraiment de gérer au quotidien aujourd'hui, c'est ce que j'ai là dans les mains, un smartphone. Dans mon smartphone, j'ai le monde en carte, j'ai absolument tout. Et partout où l'on va aujourd'hui, en tout cas dans tous les pays où je suis passé, on trouve des points d'accès Wi-Fi. S'il n'y a pas le 3G est quand même très coûteux, mais il existe en cas de problème, on sait qu'il existe. Et ensuite, il y a des distributeurs d'argent, de monnaie, des banques qui vous donnent la monnaie locale partout. Donc, il n'y a plus aucune difficulté. Même pour les pièces du vélo, j'ai été surpris. Le seul pays où j'aurais pu avoir à manquer d'une pièce, par exemple, pour mon vélo qui aurait lâché, c'est la Mauritanie, parce que le pays du sable, il n'y a pas de vélo en Mauritanie, ou très peu. Mais partout ailleurs, il y a des vélos. Dans toute l'Amérique du Sud, je suis tombé sur des marchands de vélos équipés exactement, ayant toutes les grandes marques, exactement comme chez nous. Il y a des magasins des grandes surfaces. Donc, c'est plus du tout l'aventure totalement dans le sable, comme on pourrait l'imaginer. Elle l'est quelque part, mais en même temps, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 50 ans. Voilà, donc la préparation, il n'y a pas une préparation énorme. Et physiquement, bon, personnellement, je suis un peu sportif, je fais un peu de montagne avec le club alpin ici sur Digne, donc il y a pas de, j'ai pas eu de préparation particulière.
Donc, un voyage avec beaucoup d'anecdotes, on va le voir au fur et à mesure de cette émission, et puis on va voir un peu les itinéraires, le changement, le dépaysement a commencé comment ? Enfin, vous avez listé un petit peu les pays, donc en premier l'Espagne, quels sont vos souvenirs de cette première étape ?
Alors,
est-ce que c'était vraiment la première étape ?
Oui, quelque part. Comme pour mon premier voyage, j'ai quelqu'un de ma famille qui se trouve à Avignon, qui est mon premier point de chute au départ. Donc quand je pars, toujours affolé, pas trop préparé, je sais qu'il va me manquer plein de bricoles, plein de choses. En fait, il ne me manque pas, mais c'est la sensation. Je sais que 2 jours après mon départ, je fais une petite pause à Avignon, j'ai mon beau-frère, et je peux faire un petit point, réparer quelque chose, affiner les choses. Ensuite, je pars, je m'enfonce un peu plus dans le voyage, et quand je passe la frontière espagnole, là, je commence à être vraiment parti. Vous me parlez un petit peu de l'Espagne, cette fois-ci, j'ai pas été bien en Espagne. Le plus dur, je le dirai à la fin, le plus dur d'un voyage comme ça, c'est de partir, de quitter son monde, quitter ses enfants, de partir. Une fois qu'on est parti, on est sur la route. Mais entre le moment où l'on part et le moment où on s'enfonce, où on pénètre dans son voyage, où on rentre dans le monde du vagabond qui est simplement citoyen du monde, il faut du temps. 1 mois, 2 mois. Lors de mon premier voyage, je me suis retrouvé vraiment déraciné quelque part, à oublier vraiment mes valeurs, mes racines et à vivre avec les gens la vie du monde, avec les gens que je croisais sans mes références, bien qu'on les a toujours quand même un petit peu, mais vraiment loin de mes références, après 2 mois. Et cette fois-ci, oui, il y a eu toute l'Espagne qui n'a pas été un moment si facile que ça. Je me suis trouvé quand même très très seul au cours de toute la partie espagnole. Ensuite, par rapport à ce que je recherche dans mon voyage, l'échange avec les gens, la vie simple, la vie au contact de l'homme de la rue, je ne l'ai pas trouvé en Espagne. L'Espagne est un pays qui est dans une course, dans toute la côte de ce que j'ai suivi. Je fais une petite parenthèse, là j'insiste bien sur ce fait que ce que je raconte, c'est ce que je raconte de ce que je perçois du haut de mon vélo, sans analyse, allant plus loin que ça. Voilà. Donc j'aime bien rencontrer les gens de la rue et partager avec eux, alors quand je dis de la rue, les gens qui sont autour de moi et pas simplement des rencontres ciblées. L'Espagne, je pense, est un pays qui court vers une société de consommation qui est encore pire que celle qu'on connaît chez nous. Sur la côte espagnole, je n'ai jamais vu autant d'appartements de luxe, de Rolls-Royce, de Harley-Davidson, d'une vie de la course à la consommation matérielle qui finit par... Malheureusement, ça semble être un lieu commun de dire ça, mais qui tue la relation humaine. Et j'ai eu très peu de contact, en fait, avec la population. Voilà, c'est la partie espagnole, même si l'Espagne est le pays qui présente les meilleures pistes cyclables, qui a le meilleur réseau routier que j'ai traversé depuis, quand même bien meilleur que chez nous, que j'ai traversé depuis que j'ai quitté la France. J'ai pas eu beaucoup de contact avec les gens, avec la population en Espagne. Voilà.
Alors, vous parlez de vent de sable, c'est ce que vous avez vécu en Espagne, ça ?
Non, le vent de sable,
en Espagne, c'est au Maroc.
Par contre, j'ai eu du mauvais temps, je parle un petit peu du mauvais temps. Quand je suis parti, c'était novembre, donc j'attaquais l'hiver, et il fallait, tout ça s'était calé par rapport au bateau, et en fait aussi par rapport à la fin du voyage, où j'allais devoir traverser la cordillère, et il fallait que je passe Mendoza et la cordillère avant le mois de juin, avant le mois de juin, sinon après là-bas c'est l'hiver et les choses auraient été sans doute beaucoup plus difficiles. Donc effectivement en Espagne je n'ai pas eu de vent de sable, mais j'ai eu pour passer les Pyrénées des très mauvais temps. Peut-être que ça aussi ça a joué sur mon moral. J'ai passé des nuits sous la pluie, rien de catastrophique, rien de dramatique, mais il a fallu du temps pour vraiment sentir bien vraiment heureux dans ce voyage. Et en fait quand je suis arrivé tout au sud de l'Espagne, à Tarifa, parce que j'ai pris le bateau à Tarifa pour Tanger, c'était le soir, la nuit. À Tarifa, en attendant le bateau, j'ai passé un très bon moment. J'ai d'abord rencontré une Marocaine qui vendait des châtaignes. Ensuite, je suis allé boire un demi, et j'ai rencontré là, un couple d'Espagnols avec lequel on a passé un super moment. Et j'ai quitté l'Espagne avec la bise de cette dame qui, pour moi, m'a fait vraiment chaud au cœur. je quittais l'Espagne. Et j'ai peut-être en Espagne passé, je suis peut-être en Espagne passé à côté d'un certain nombre de choses, je ne sais pas. Enfin, je suis resté sur la côte.
Donc,
mais toujours est-il que
souvenir.
ce soir-là, j'ai pris le bateau. Je suis arrivé à Tanger, j'ai trouvé un petit hôtel. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé et que j'ai pris mon premier thé à la menthe dans le brouhaha de la vie marocaine, dans ce calme, dans ce bonheur et ce calme, je me suis dit, ça y est, mon voyage est là, je suis parti, c'est ce que je cherche et je suis bien.
Donc voilà, l'Espagne, solitude, une société que j'ai envie de fuir aussi,
oui.
Pas un bon souvenir. Le début du voyage, donc agréable, c'était au Maroc, avec ce thé à la menthe, voilà, ouais. Les petits détails qui font du bien quand on voyage. Alors, quels sont vos souvenirs, donc, si on fait une pause au Maroc?
Ouais. Ah, au Maroc, il y en a
les beaucoup, anecdotes,
beaucoup d'anecdotes.
Dans quel état vous êtes arrivé, donc, au Maroc?
Dans quel état, en ce qui concerne l'état physique, l'état moral, tout ça allait bien, il n'y a pas de souci. Hein. Et j'étais heureux de redécouvrir le bonheur de ce pays d'accueil, quelque part, d'accueil assez ouvert, simple. C'est sans doute un des plus beaux pays à traverser en vélo, où qu'on aille. La dernière fois, j'étais passé par l'intérieur du pays, par Midelte, les dunes de Merzouga. Cette fois-ci, je suis resté sur la côte. J'ai fait au plus court, je ne connaissais pas la côte marocaine, et j'ai trouver un pays toujours aussi charmant que celui que j'avais quitté 2 ans avant. Voilà. Ensuite, au niveau du Maroc, j'étais attendu par une amie de France et sa fille à Casa. Donc là, j'ai passé quelques bonnes journées à Casa. Et après, je suis reparti vers la Mauritanie, enfin vers le sud du Maroc, puis la Mauritanie. Bon, j'ai beaucoup de petites anecdotes à raconter sur le Maroc. Les villes que j'ai vraiment appréciées au cours de mon trajet, il y en a eu beaucoup. Il y a eu, je suis resté quelques jours à Essaouira, magnifique, Safi, un petit peu plus au nord. Après, je suis arrivé pour la période des fêtes de Noël dans la région d'Agadir, premier de l'an. Au Maroc, en tout cas dans le sud où j'étais à ce moment-là, les fêtes, bon, il est normal que Noël ne soit pas fêté comme chez nous en pays musulman. Et ensuite, le premier de l'an n'est pas non plus fêté du tout comme chez nous, mais j'ai passé bon, à chaque fois de bons moments avec les gens qui étaient là autour de moi dans les auberges. Et quand on arrive complètement dans le sud du Maroc, de la zone vraiment peuplé du Maroc, du côté de Golmim. Là, le voyage avance, on s'enfonce un peu plus, on attaque le désert. Et quand on quitte Golmim, on a vraiment cette impression extraordinaire de partir vers un monde où il n'y a plus qu'une piste, où il y a plus qu'une route. C'est comme une route, c'est pas une piste. Une route au milieu du sable.
Alors vous parlez de rencontres. De rencontres importantes au cours de ce voyage, rencontre de Mouloud par exemple.
Ah oui, ça c'est un très beau moment. Un soir, la nuit tombée, j'étais tout seul sur mon chemin, sur mon vélo, au milieu du sable, et je pédalais, j'étais bien, heureux d'être sous le ciel, là, simplement entre le sable et le ciel, et je me disais, mais t'es complètement fou. Dans ma tête, discrètement, et je me disais, mais c'est pas possible de pouvoir vivre quelque chose comme ça. Tu es là avec ton petit vélo, t'es parti de Digne. Tu es simplement avec ton vélo, tes bagages. Tu ne sais pas vraiment où tu vas t'arrêter ce soir. Tu n'as plus d'eau. Et tu pédales. Et t'es bien. J'écoutais un petit peu de musique, je chantais. La nuit est arrivée. Et je me disais, je vais peut-être arriver à pédaler jusqu'à une antenne où je savais qu'il y avait un gardien d'antenne qui s'appelle Mouloud, qui m'avait accueilli au milieu d'un vent de sable 2 ans avant.
Ah oui, donc c'était déjà une rencontre, quelqu'un de connu.
Voilà, connu, mais je ne l'avais jamais recontacté depuis que je l'avais quitté 2 ans auparavant. Je savais simplement, pour avoir rencontré, par le plus pur des hasards, en prenant un thé un soir, j'étais à Darla, par là, oui, c'est à Darla, dans une ville marocaine, une ville du Maroc occidental. J'ai croisé son chef de façon complètement fortuite. Cet homme m'avait invité chez lui, présenté sa famille, ses enfants. J'avais passé une bonne soirée. Et je savais que Mouloud devait, en principe, ce jour-là, être à son antenne. Et la nuit étant arrivant, la brume, il y avait de la brume aussi tombant, je ne trouvais pas l'antenne. Je me disais, tiens, l'antenne, je ne savais plus exactement où elle était parce que des gendarmes m'avaient dit précédemment sur la route, l'antenne doit être à 70 km. Mais en fait, fallait que je me méfie quand même parce que l'information était complètement fausse. L'antenne a été beaucoup, elle était 50 km plus loin à vélo, 50 km sur une route, une petite route dans le sable, ça fait quand même beaucoup. Et n'ayant pas d'eau, je me disais, je ne vais pas pouvoir. Si je dois dormir par là dans un trou de sable, ça va être quand même très, très dur. On peut se passer de beaucoup de choses, mais quand on a pédalé toute la journée, qu'on commence à avoir soif, que l'on n'a pas d'eau et qu'il y a peu d'espoir d'en avoir, bon, à un moment donné, j'ai entendu deux camions qui arrivaient au loin sur la route. J'ai mis mon vélo bien en vue sur la route, dans le noir, ma lampe en flash, ma frontale en flash. Les camions se sont approchés. Ils se sont arrêtés, ils se sont mis l'un à côté de l'autre. J'étais entre les deux camions à expliquer mon problème d'eau. Les deux conducteurs ne se connaissaient pas. Il y avait un Marocain, je pense, et un Mauritanien. Et par chance, c'est peu normal qu'ils aient ça dans leur camion, l'un avait des bouteilles vides et l'autre avait de l'eau. Donc on a fait le transfert, l'un m'a donné sa bouteille en plastique, on a rempli dans l'autre camion avec l'eau que le deuxième avait. Ils sont repartis et à partir de là, avec 3 litres d'eau, je me disais, il n'y a pas de problème, je pourrais passer ma nuit n'importe où. Il y avait du vent, donc je ne pouvais pas planter non plus la tente n'importe où. Je cherchais un petit coin abrité pour planter ma tente, quand à un moment donné, je me suis rappelé que ce coin où je cherchais un endroit pour m'arrêter, je l'avais connu il y a 2 ans. Et je l'avais connu en plein vent de sable, dans un moment très difficile, et c'était avant d'arriver à l'antenne de Mouloud. Donc, dans ma tête, je me dis, c'est bon, il n'y a pas de problème. L'antenne de Mouloud est plus loin. Je peux continuer dans ma folie. Puis en plus, j'ai de l'eau. Je suis reparti, j'ai continué. Et puis, bon, quelques kilomètres plus loin, enfin, 10-15 kilomètres plus loin, dans le noir, très au loin, j'ai vu une petite lumière sur le bord de la route. Et je me dis, ça y est, ça doit être l'antenne. Je me suis approché. Effectivement, c'était l'antenne. J'ai poussé la porte de l'enclos, un petit peu comme un grand jardin de l'antenne. Il y avait de la lumière dans une pièce. Je suis allé jusqu'à la pièce. Et là, je suis tombé sur Mouloud, qui m'a reconnu, bien sûr, et qui m'a ouvert ses bras. Qui était en train de manger un michoui avec un camarade. Donc voilà, on a fini le michoui, on a partagé, on a passé un super moment. Sa femme, Najette, n'était pas là ce soir-là, elle était partie à la Youn. Et il a même sorti des châles, peut-être pas le dire, mais ça ne lui reviendra pas, de Najette pour protéger mon vélo parce que le matin, il allait pleuvoir. Voilà, donc c'était un super moment, un super instant. Et l'histoire ne s'est même pas terminée là parce qu'il m'a dit, bah, écoute, si tu continues 50 ou 80 kilomètres plus loin, il y a une autre antenne. Et cette antenne, c'est l'antenne de la concurrence. Mais tu sais, c'est le frère de Najette qui la garde, son petit frère qui doit avoir 17, 18, enfin qui n'a pas 20 ans. Mmh. Et donc, je suis reparti le lendemain en sachant que j'allais chez le petit frère. Quand je suis arrivé chez le petit frère, bien sûr, je me suis arrêté. Il vivait dans 4 mètres carrés, vraiment dans rien du tout au pied de cette antenne. J'ai sorti mon réchaud, on s'est fait des bonnes pâtes, il m'a fait un thé, voilà, j'ai continué ma route. Et peut-être que j'y repasserai un jour.
Est-ce qu'on continue avec la musique de la Mauritanie? Parce qu'il y a beaucoup de pays à raconter, il y a beaucoup de choses. Et je vois que Hugues de Goers n'a pas changé. On a tous les détails de la bière. Pour un peu, on aurait le prix des consommations. Non, je me moque gentiment, ouais. mais il y a tellement à dire sur tous ces pays. Donc, une petite pause musicale?
Sans problème.
Allez.
Thank you. بودر مجرد انت يا مغار انوار غريل جهل النقدال انت يا الياض
cette belle musique. C'était pour le passage en Mauritanie, mais avant ce passage en Mauritanie, on va revenir au Maroc. Vous avez envie de Hugues de Goers, donc notre voyageur de Digne à Santiago du Chili en vélo, pour ceux qui prendraient l'émission en route. Donc, au Maroc, encore une rencontre importante, c'est deux pêcheurs.
Oui, cette histoire est... une belle histoire qui amène à une réflexion sur notre fonctionnement. Au Maroc, j'ai été quelque part protégé par la gendarmerie. J'étais suivi, les gendarmes faisaient attention à ce qu'il ne m'arrive rien. Et un soir, plusieurs soirs de suite, les gendarmes me disaient « Attention, ne vous arrêtez quand même pas n'importe où. Dormez plutôt dans les stations-service. » J'ai dormi quelques fois dans des stations-service, mais je n'ai pas dormi. Je me suis posé dans des stations-service où toute la nuit, des camions arrivent, repartent, des bus s'arrêtent, les gens descendent pour la prière, pour le casse-croûte, etc. Donc, il n'est pas possible de dormir. Et je rêvais quand même de dormir sous ma tente, dans le sable, au bord de la mer. Et les gendarmes me disaient, si vous vous arrêtez le long des routes comme ça, faites très attention, il y a des gens... douteux, qui peuvent traîner le long des falaises. Méfiez-vous. Faites attention. Et ça, c'est la peur de l'autre. Un soir, j'ai vraiment pris envie de m'arrêter. J'étais sur cette route côtière dominant la mer. C'était magnifique. J'étais tout seul. Il n'y avait personne. Et je me suis approché du haut des falaises dominant le rivage. En fait, c'est un immense plateau qui se termine par des falaises et des éboulis qui descendent à peu près sur 80 mètres de dénivelé pour arriver au niveau des plages qui sont au bord de l'océan. La route est sur les plateaux. Je me suis approché donc de la ligne de la rupture de pente supérieure. J'ai regardé la mer et là, je me disais que c'est magnifique, c'est trop beau. Le soleil était en train de se coucher. Ce soir, je dors là, j'écoute pas les gendarmes, je dors là. Et au moment où je me disais ça, est arrivé un monsieur noir dans son burnous. Exactement le type de l'individu que m'avaient présenté les gendarmes dont il fallait que je me méfie. Il ne parlait que l'arabe. Je ne parle malheureusement pas l'arabe. Et par contre, j'ai compris qu'il me disait qu'il avait un autre ami un petit peu plus bas, etc. Je n'osais pas lui dire que je voulais m'installer ici. Donc j'attendais un peu qu'il s'en aille. Je ne savais pas d'où il était venu d'ailleurs. Et je commence à bouger un peu mon vélo pour trouver l'emplacement idéal. Il disparaît. C'était vraiment cette impression d'apparition, de disparition. Et je le vois revenir avec une pelle. Et là, je me dis, fais attention, il a une pelle. Ça peut être dangereux. Et non, il est venu vers moi. Il a pris sa pelle et il m'a rasé une zone bien plate dans le sable et les cailloux pour que je puisse y poser ma tente. Donc je me suis dit, là, non, ça doit pas être quand même l'ennemi numéro un du lieu. On va baisser la garde. Il est reparti d'où il venait. J'ai installé ma tente et il est venu me proposer. En fait, quand son camarade qui était en bas en train de finir ses travaux de pêche qui étaient au bord de l'eau et l'a rejoint, lui, le deuxième parlait un peu français et ils m'ont proposé d'aller manger avec eux. Il vivait en fait dans une petite tente, dans un tout petit vallon qui descendait vers la mer qu'on ne pouvait pas du tout voir, ni de la route, ni de l'endroit où je m'étais installé pour la nuit. J'ai pris 2-3 provisions que j'avais avec moi, me disant, tiens, je vais quand même pas aller comme ça, les mains vides. Et quand je suis arrivé dans leur petite tente faite de sacs et de, enfin, tente de pêcheurs marocains, faite de briques, de brocs, de planches, etc., à l'intérieur, c'était un petit havre de paix. Ils avaient le confort minimum. Ils avaient largement de quoi manger, le gaz, la lumière avec le gaz. Ils étaient vraiment, vraiment bien. J'ai passé une soirée absolument extraordinaire avec eux. Ils m'ont raconté un peu leur histoire. C'était en fait deux amis. L'un était venu pêcher pour vivre. Il venait du nord du Maroc. L'autre travaillait en fait à Darla, la ville qui était à peu près une trentaine de kilomètres. Et il y a 6 ans en arrière, avait rencontré ce copain. Et depuis, ils étaient amis. Donc celui qui était de Darla venait 3 jours par semaine quitter sa femme, ses enfants pour venir profiter de ce petit lieu magique, ce trou magique dans lequel, à partir d'où il pêchait. Et une solide, très solide amitié existait entre les deux. Celui de Darla avait à peu près mon âge, une 60aine d'années. L'autre était plus jeune. Comme il parlait français, j'ai pu apprendre quand même beaucoup de choses sur le mode de fonctionnement. En fait, tout était organisé. On peut pas l'imaginer. Une voiture passait tous les jours pour amener le gaz, amener les poissons. Enfin, c'était pas du tout une vie difficile. C'était une vie de bonheur et de paix. Et quand je suis reparti le lendemain, après avoir passé cette soirée, je me suis dit, mais il est dur de quitter nos craintes, nos peurs. Le principal obstacle pour aller à l'autre, pour échanger, c'est la peur, c'est la crainte. Et malheureusement, dans notre monde occidental, cette peur est sans arrêt mise en avant, sans arrêt, sans arrêt. Ce qui fait qu'il nous est très difficile parfois d'aller à l'échange total avec les gens que l'on croise sur son chemin. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'il fallait un temps pour s'enfoncer dans le voyage, ça en fait partie, ça en fait vraiment partie. Car ça, c'est un exemple que je vous cite, mais ce genre d'échange, de rencontre que j'ai pu vivre par le fait de pas avoir peur, de me laisser porter par les événements, c'est quelque chose de vraiment important. Si j'étais passé sur cette route, écoutant ce que me disait mon monde, ma sécurité, ma protection, jamais, jamais, je n'aurais pu imaginer qu'il y avait dans ce trou deux hommes heureux, mais vraiment heureux, heureux, partageant le bonheur tout simple de la vie avec leurs poissons et leur petite cabane, leur petit transistor, leur thé, le pain qui faisait griller le soir dans un trou. Voilà. Donc c'est un bon exemple pour illustrer ce blocage entre humains que crée la peur de l'autre.
On va continuer, donc Hugues de Goers, avec la suite de ce voyage. On quitte le Maroc pour la Mauritanie. Vous parliez de 2 jours entre sable et océan.
Oui, avec, ça c'est à Ouagadougou. je suis en fait...
Oui.
Je suis arrivé... oui, entre... Je repositionne tout dans ma tête pour pas. Quand même, chronologiquement, il y a eu beaucoup de choses, c'est un peu difficile. Alors, oui, Ouagadougou. J'ai quitté le sud Maroc, l'extrême, la frontière Maroc-Mauritanie, un soir vers 17h. Le dernier Marocain, là je vais parler un petit peu de l'idée qu'on peut se faire des frontières. Le dernier Marocain que j'ai abordé, enfin, qui était un militaire du poste frontière, me dit. Tu fais un beau voyage, mais là-bas, tu sais, tu quittes la civilisation. Vous, en France, vous êtes des gens civilisés. Nous, au Maroc, on est sur le chemin de la civilisation. Mais là-bas, de l'autre côté, après les 4 km de No Man's Land, parce qu'il y a une zone de 4 km actuellement entre le Maroc et la Mauritanie qui n'est pas très définie en termes de propriété via l'ONU. En fait, c'est une zone qui pensait plutôt propriété des Sahraouis. Mais après, là-bas, tu verras, c'est le... C'est vraiment le monde de la non-culture. Tu vas voir. Je connaissais la Mauritanie, j'ai des amis en Mauritanie, donc ça m'a un petit peu interpellé, qui voient de cette façon-là le monde 4 km au-delà de là où il se trouvait, alors qu'on est dans le sable des deux côtés. Hein. Ce soir-là, j'ai continué ma route et je suis allé jusqu'à Ouagadougou. À Ouagadougou, je devais rencontrer quelqu'un, un Français. Enfin, je devais me présenter chez un Français qui n'était pas là, mais qui gère une structure touristique simple. Lui, donc cette structure ne fonctionne plus aujourd'hui. Je me suis quand même allé jusqu'à la porte. Il n'y avait personne à la porte. Et mon ami, donc gérant cette structure qui n'était pas là, m'avait laissé le numéro de téléphone d'un ami à lui qui s'appelle Traoré. Et il m'a dit, si tu arrives là-bas, que tu as un petit souci, appelle Traoré. Donc après 3 km dans le sable, je suis arrivé donc à la porte de cet établissement. C'était la nuit, personne n'est venu m'ouvrir. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Traoré, qui m'a dit tout de suite, ne bouge pas, je viens te chercher avec mon 4x4. J'ai attendu un petit moment, un 4x4 est arrivé dans le sable. Et il m'a dit, suis-moi, j'ai eu un peu de mal, parce qu'il était en 4x4, ça allait bien dans le sable, avec le vélo dans le noir. Je suis tombé 2-3 fois, mais sans me faire mal. J'avais beaucoup de mal à le suivre. Il m'a emmené jusque dans une petite cabane, un cabanon qu'il avait au bord de la baie du Lévrier, au nord de Ouagadougou. Là, j'ai rencontré un autre Mauritanien, professeur à l'école des mines de Ouagadougou. Et on a passé 2 jours de rêve. Déjà, j'ai passé de formidables moments avec eux. Le lendemain, on est allé pêcher. Il y avait des dorades autant qu'on en voulait. On mettait la canne, on mettait l'hameçon et instantanément, on avait une dorade qu'ensuite on se faisait griller sur des feux de bois dans ce monde. Vraiment, quand je dis entre sable et mer, oui, entre sable, ciel et mer. Voilà, c'est vraiment un endroit vraiment magique. Et bien, bien, bien loin de la fin de la civilisation qu'on m'avait présentée la veille. Le dernier militaire marocain. Et ce qui est dommage, c'est que je suis sûr que si j'avais posé la même question aux Mauritaniens sur ce qu'ils pensaient du Maroc, j'aurais eu en gros la même réponse que ce que m'avait dit le Marocain. Et ça, c'est le problème des frontières. On se dit, mais pourquoi toutes ces frontières? Pourquoi c'est ce jugement de l'autre? Et derrière, c'est sans doute surtout, comme toujours, encore la peur de l'autre, la peur de l'inconnu qui crée ces jugements abrupts et sans fondement. Voilà, donc pour mes 2 jours d'arrêt à Ouagadougou, puis j'aurais beaucoup d'autres choses à raconter, parce qu'en fait, ce professeur que j'ai croisé par le plus pur des hasards était l'ami d'un ami français qui m'avait donné des coordonnées là-bas sur place, alors qu'il n'était pas prévu du tout qu'il soit dans cette cabane. Un petit peu plus loin, sur ma route, une semaine, 15 jours après, en Mauritanie, je me suis arrêté aussi, il y avait un contrôle de police, je me suis arrêté, on a bien rigolé avec les gendarmes. Et puis il y avait un monsieur qui était là, en train de boire son thé, dans l'après-midi. Et puis on s'est mis à plaisanter, à rigoler. Puis je lui disais, mais tu sais, je me suis arrêté à Ouagadougou. Puis il me dit, mais tu étais où à Ouagadougou? Ben, je lui dis, j'étais chez Traoré. Chez Traoré? Mais Traoré, ça a été mon chef pendant 2 ou 3 ans. Et tout le voyage, comme ça, j'ai été, de façon, par le plus pur des hasards, de personne en personne qui se connaissait. C'est assez surprenant.
Donc, toujours des rencontres surprenantes, des contacts faciles. Est-ce qu'il y a eu des mauvaises rencontres? Non.
Aucune. Mais je dis bien aucune.
Ouais.
Et sur 7 mois et demi...
Que c'est le fait d'arriver en vélo quelque part avec son...
Oui. Ça, c'est certain que le
vélo... Interpelle, ça interpelle. Vous êtes comme un étranger bizarre.
Le vélo présente deux, trois choses qui sont complètement différentes de tout autre moyen d'approche. La personne qui vous voit arriver en vélo sait que vous avez fourni un gros effort pour venir. Mmh. Ça, c'est quelque chose d'important. La personne qui vous voit arriver en vélo sait que vous n'êtes pas... un quémandeur, quelque part, enfin un quémandeur. Quand vous arrivez à pied avec votre sac à dos, aujourd'hui, j'ai croisé des jeunes qui voyagent comme ça, mais qui voyagent en fait sur le dos des gens, quelque part, qui les hébergent. Ce n'est pas systématique. Mais ce que je dis, avec le vélo, on est beaucoup moins dans cet esprit-là. Le voyage est organisé, on est autonome, on vient avec effort, et on est, en même temps, on est nu. On ne demande rien. Et je pense que ça ouvre forcément des portes, forcément. Oui, le vélo est un formidable moyen de rencontrer, de découverte. J'ai croisé aussi des gens qui voyageaient sac à dos, mais quand on dit sac à dos, on prend les taxis, on prend les bus. Et souvent, en fait, on va de ville en ville. On ne s'arrête pas le soir n'importe où. Chez un paysan, là, le long de la route, avec son vélo, on roule jusqu'à ce que la nuit arrive. Souvent, le soir, je roulais encore 2 heures la nuit sans savoir où j'allais dormir. Et je trouvais toujours un coin pour dormir. S'il y avait quelqu'un, souvent, on ouvrait la porte, on m'a souvent prêté un lit, prêté une cabane, prêté... Voilà.
Donc aucune angoisse en tout cas,
non, jamais,
au niveau
jamais,
de l'accueil, au
jamais,
niveau de,
jamais, jamais,
de savoir
jamais,
où dormir.
Jamais, nulle part. Ni après on verra en Amérique du Sud de la même façon.
Et jusque donc de Digne à la Mauritanie, un contact quand même toujours avec la France, avec des amis et par Internet.
Oui, ça je le disais lors de mon premier voyage, c'est extrêmement important. Par Internet, par le biais du Wi-Fi notamment. Tous les jours, pratiquement au quotidien, j'étais en contact avec un ami, avec quelqu'un. Ça, j'ai gardé en permanence un contact avec la France. Et ça me faisait plaisir, quelque part, de faire vivre un peu mon voyage à mes amis.
Et oui,
En gros, tous les mois, je faisais un petit montage diapo avec le système Picasa que j'envoyais à mes amis en France pour leur partager un petit peu.
Et que nous avons reçu aussi à Fréquence Mistral. Ça permettait de rassurer ceux qui n'étaient pas... qui avait envie peut-être aussi de suivre le voyage avec des photos plutôt sympas qu'on partageait sur Facebook. Alors, la Mauritanie, et le passage de la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal.
Oui, là aussi, quand je dis que j'ai voyagé avec une étoile, je pense que j'ai vraiment une étoile au-dessus de moi. Dans le sud de la Mauritanie, j'ai croisé 2 Français, on a pédalé... une journée ensemble, on a passé un bon moment, on a bien échangé. Et eux partaient vers la frontière qui se trouve le long de la côte que j'avais franchi la dernière fois. Cette fois-ci, je choisissais de passer par Rosso pour en fait éviter Saint-Louis et traverser le Sénégal pour descendre vers le sud. Ce soir-là, après avoir quitté mes amis, je voulais aller jusqu'à la frontière qui s'appelle Rosso. Tout le monde me disait « Attention, Rosso, c'est un coupe-gorge. Attention, Rosso, tu vas te faire avoir. C'est vraiment un truc pas possible. C'est le bazar des deux côtés. » Et je savais que le poste aux frontières fermait à 18h. Donc je voyais très bien que je n'allais pas pouvoir arriver vraiment à la frontière avant la fermeture. Un petit peu avant, j'ai demandé sur ma route à des gendarmes s'il n'y avait pas un village par là où je pouvais m'écarter un petit peu de l'axe principal pour trouver un coin pour passer ma nuit. Ils m'ont guidé. Je suis allé donc vers un village qui m'était conseillé. J'ai rencontré le policier dans sa petite cabane. C'était la nuit, comme toujours. Ces moments, je les ai toujours vécu de nuit. C'est étrange. Et le policier qui était là me dit, moi, je ne peux pas t'héberger, mais écoute, il y a un gendarme à la retraite, là, un petit peu plus loin. Il vient de construire une maison. Tu devrais aller le voir. Peut-être qu'il pourra t'héberger. Donc, ils m'ont conduit, parce que dans le noir, c'est pas évident et dans le sable, c'est pas évident de trouver les chemins. Donc, ils m'ont conduit jusqu'à cette maison. Effectivement, le gendarme était là. Il m'a ouvert sa porte. Premier mot, ma maison est ta maison. T'es chez toi. Il m'a installé dans son salon au milieu des tapis. Enfin, c'était rustique, mais une jolie maison quand même. Et il m'a présenté sa femme, ses enfants. Il m'a préparé à manger, bien sûr, parce que chaque fois qu'on est invité, on a droit au repas du soir. Et il m'a expliqué qu'il était gendarme à la retraite, qu'il travaillait avant au poste de frontière de Rosso, et que maintenant, il travaille toujours à Rosso, dans des affaires civiles maintenant. Et il me dit, demain matin, moi, je pars travailler à 7 heures, tu te lèves tranquillement, et quand tu arrives à la frontière, tu me fais appeler. Et puis, je vois ce que je t'aiderai à passer. Je me suis levé, j'ai pris un bon petit déjeuner, sa femme était là, au petit soin, avec une des filles. J'ai pris ma route, je suis arrivé à la frontière, et effectivement, quand on approche la frontière à Rosso, il y a énormément de monde, de mouvements, de vendeurs de toutes sortes, de guides, de faux guides, de gens qui vous proposent leurs services pour ceci ou pour cela. Et à un moment donné, pour limiter le bazar au niveau de l'embarquement, sur la route, il y a deux grandes portes métalliques, comme des portes de prison, que l'on ne peut pas franchir. Mmh. Et quand je me suis approché de ces deux portes, au milieu du brouhaha et de tout le monde, je suis tombé sur des militaires et là, j'ai demandé si je pouvais rencontrer mon ami de la veille. Ils sont allés le chercher et à partir de là, les portes se sont ouvertes pour que je puisse passer. Il m'a emmené faire toutes les démarches administratives le plus simplement possible. Il m'a accompagné pour le change, etc. Et il a fini par m'emmener jusque sur le bac. Il m'a mis sur le bac dans les mains d'un ami à lui, sénégalais, pour que ça se passe bien également de l'autre côté. Et j'ai vraiment passé la frontière à Rosso comme un VIP, je ne sais pas comment il faut dire. Voilà, un instant surprenant d'échange de plus.
Alors, Hugues de Goers, donc sur notre antenne, un voyage 12 000 km en vélo, 3 500 en voilier, 15 000 km en avion, 1 000 km en divers, c'est-à-dire taxi, remorque, bus, à pied, enfin voilà, un voyage incroyable. Hugues de Goers, donc là vous arrivez au Sénégal, on va faire juste pour un mois au Sénégal,
un petit mois, oui.
Avant de poursuivre votre route jusqu'à Santiago du Chili, on va écouter une musique douce que vous avez choisie pour illustrer l'arrivée au Sénégal. Alors, petite erreur de CD. On va revenir. Donc, on était parti déjà sur le Brésil, c'est ça, me dit Hugues. Et on va reprendre donc une chanson pour le Sénégal. C'est ça?
Hina bidali la ne janye moko kana wakaneto.
Emi le fe janye moko kana wakaneto.
Ma karime dalila ne janye mo kana wakane tu
ebile fe janye mo kana wakane tu
inenyo gonya ve dalimuna jarabi kana ta
ebile fe janye mo kana wakane tu
Baba jarabi ne kanumba kana wakaneto
Emilele fe janye mo kana wakaneto Emilele fe janye mo kana wakaneto
Dalila Makaribi Dalila Ko Baba Jarabi do Juluya Konebi Elefe Ne Jarabi Ko Baba Kanumba Kanuye Keneye Baba Jarabi Kone dia ye mogo kana waka neto Ne jarabi ne biwe
Voilà, en retour avec Hugues de Goers pour le récit de son voyage, ce dernier voyage pour l'instant, puisqu'on verra par la suite qu'il y a toujours des projets, parce que c'est difficile de tenir Hugues de Goers en place. Et voilà, donc on en est après ce passage au Sénégal, un mois. Donc Hugues de Goers, je le rappelle, un périple en vélo, 12 000 km en vélo, 3 500 en voilier, 15 000 km en avion, 1 000 en divers déplacements comme le taxi, les remorques, les bus et bien d'autres choses encore comme les charrettes ou enfin tout est bon pour se déplacer. Le vélo a tenu le coup. Alors là, on va bientôt arriver à la traversée en mer, bien sûr.
Oui, alors on va accélérer un petit peu parce que l'heure tourne et je ne vais malheureusement pas avoir le temps de tout vous raconter dans le détail.
On peut pas quand même arriver au Chili.
On peut pas concentrer sept mois comme ça en une heure et demie, c'est difficile. Donc ma traversée du Sénégal s'est passée sans difficulté majeure. J'ai été hébergé à droite, à gauche, je suis repassé à Touba, j'ai passé une nuit chez un grand marabout. J'ai toujours des rencontres. Et le 1er février, je suis arrivé à Ndangan, dans le sud du Sénégal, dans le Sine Saloum, où m'attendaient Marc et son voilier. J'ai rencontré également à cet endroit des amis sénégalais que je connais depuis plusieurs années. Jules, que je vois de temps en temps, une fois par an en France. Marie-Hélène, une amie qui est de Tchilor, le village à côté. Et j'ai passé une petite semaine à travailler à la préparation, tranquillement, à la préparation du bateau. Parce qu'il faut quand même mettre le bateau en état, chargé, de quoi manger à trois. On est parti à trois, de quoi manger à trois pendant une vingtaine de jours. En fait, on a traversé en 14 jours. On a mis un jour pour descendre le ciné, façon à se mettre vraiment en bordure de la côte océane. Et la traversée elle-même a duré 14 jours.
Donc c'était un gros voilier.
Oui, alors j'ai eu beaucoup de chance aussi là. Je n'arrête pas de dire que j'ai eu de la chance, oui, c'est évident. J'ai croisé Marc en montagne ici en France. Il m'a parlé de ce voyage, donc tout s'est mis en route. Je voudrais dire deux mots au sujet des compétences de Marc, qui est un marin averti, sûr de lui, serein, jamais dans la situation du risque, anticipant toujours la situation avant que le mauvais coup n'arrive, ce qui fait qu'on se sent très vite en sécurité, en sérénité même sur son bateau. Sérénité, je ne veux pas dire... on n'est pas dans le rêve, mais on est sans stress. Durant cette traversée, j'ai été durant les quatre premiers jours malade. Je ne suis pas marin et malheureusement, dès que je suis sur un bateau, ça commence toujours très mal par plusieurs jours de mal de mer. Pendant ces quatre jours de maladie et de mal-être, parce que c'est plus qu'une maladie, le mal de mer, au bout d'un moment, on n'a qu'une envie, c'est de pratiquement se jeter à l'eau. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas possible. On a vraiment l'impression de ne pas pouvoir en sortir. Et puis on avance. Et puis on est parti pour aller au milieu de l'océan. Et on a l'impression que jamais le mal ne s'écartera de nous. Maintenant, durant toute cette période, il a parfaitement géré la situation. On était trois. Il a continué à me faire monter l'écart, monter tout ce qu'il fallait. Il cherchait à m'occuper. Et je pense que de ça aussi, c'est quelque chose.
Parce que là, il faut donner un coup de main, ça.
Ouais, ça aussi, c'est quelque chose de très, très important qui est sur le bateau, quelqu'un qui ait le recul, qui connaisse, qui ait l'expérience de la gestion de ces situations, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui n'avait jamais traversé l'océan, mais qui est marin depuis sa plus tendre enfance et qui ne partait pas du tout en tant que... un petit peu dans le même esprit que celui dans lequel je pars, qui ne partait pas du tout, en termes d'objectifs à atteindre. Pour lui, c'était un voyage de plus. C'était aller à la découverte. Il vit d'ailleurs à l'année sur son bateau. Il avait passé plus d'un an en Afrique. Il est parti là maintenant pour 18 mois en Amérique du Sud. Il partait pour suivre son chemin, suivre sa vie, mais sans chercher l'exploit. Et pourtant, on a traversé en 14 jours. Je ne pensais pas qu'on puisse traverser l'océan de façon aussi simple, aussi facile. On a eu quelques grains, quelques petits moments où on a été un peu remué, mais jamais rien de difficile. En tout cas, jamais aucun moment à se faire peur. L'itinéraire choisi, les caps choisis ont été les meilleurs qu'ils pouvaient être par rapport au vent. On a eu du vent tout le long. On a eu au niveau de l'équateur une petite baisse durant une journée. On a fait un petit peu de moteur, mais très très peu. Le vent, dès qu'on a passé la ligne, le vent est reparti de l'autre côté. On a fini en direction des côtes brésiliennes à 10 nœuds. Il a un bateau parfaitement adapté pour ce genre de traversée. Un catamaran de 11 mètres avec un mât de 17 mètres. À 3, c'était, je pense que les conditions étaient au mieux de ce qu'elles pouvaient être pour cette traversée. Voilà.
Alors ensuite, c'est le Brésil, où c'était la fête tout le temps, où on a du mal à dormir parce que la musique, il y a de la musique tout le temps,
partout,
le carnaval.
Alors, par rapport à cette arrivée en Amérique du Sud, 14 jours comme ça, on se dit c'est pas long, 14 jours d'océan. 14 jours d'océan, quand on est malade, quand on passe 14 jours à attendre d'être de l'autre côté, c'est quand même beaucoup plus long qu'on peut le dire quand on est là assis dans un fauteuil. Quand on voit la Terre, ça fait du bien, ça y est, c'est le bout du voyage, on est de l'autre côté, on est dans cet autre monde. Et ce qui m'a le plus surpris quand je suis arrivé au Brésil, c'est d'arriver dans une ville, à João Pessoa, une ville de 3 millions d'habitants, avec des gratte-ciels, des voitures partout, une civilisation mais aussi européenne que chez nous, alors que j'avais quitté l'Afrique. Et cette impression de culture de culture occidentale, je l'ai rencontrée dans tous les pays d'Amérique du Sud que j'ai traversés. Je ne m'attendais pas du tout à trouver ça, surtout après ce que j'avais pu lire, notamment sur nos sites du ministère des Affaires étrangères, au niveau des risques, des dangers, de la pauvreté. Je n'ai pas vu ce pays-là comme il nous est présenté. Dès l'arrivée, on a eu un accueil formidable. On nous a présenté la ville le lendemain. On était en pleine période des carnavals. Donc tous les soirs, c'était fête. Donc je suis resté 10 jours au bateau. J'ai pu vivre quelques carnavals, la dimension de ce que sont les carnavals du Brésil. J'ai malheureusement pas pu voir le carnaval de Recife. J'avais prévu le voir donc avec mon ami Marc, qui lui venait de João Pessoa en train, avec sa femme, parce que c'était à quand même quelques kilomètres de là où était le bateau, un peu plus au sud. Je n'avais alors pas, moi, mesuré quand je suis parti en disant rendez-vous demain soir à Recife, je n'avais pas mesuré la dimension du Brésil. Quand 100 km, 200 km, même 400 km, c'est à côté. C'est à côté. Le Brésil, c'est 17 fois la France. Donc les dimensions ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. Et voilà, je suis arrivé avec 2 heures de retard pour rencontrer mon ami Marc. Le temps de chercher un hôtel, etc. Il était 2 heures du matin. Et c'était le dernier jour du carnaval et tout était malheureusement remballé. Donc j'ai été faire le tour de la ville le lendemain, mais j'ai raté cet extraordinaire carnaval de Recife qui est dit être un des plus beaux du Brésil avec celui de Rio. Celui de Rio attirant beaucoup de tourisme au niveau international, celui de Recife étant peut-être un petit peu moins internationalisé. Mais je suis passé à côté, dommage.
Un peu de musique ?
Divindade infinita do universo, predominante esquema mitológico, a ênfase do espírito original, formará no éter um ovo cósmico, a emersão, nem Osiris sabe como aconteceu, a emersão, nem Osiris sabe como aconteceu. Do olho seu transformou-se na verdadeira humanidade, epopeia do código de Geb. Eu falei Nut e Nut gerou as estrelas. Osíris proclamou matrimônio com Ísis e o Malsete irado assassino. Do pai derrotando o império do mal sete é o grito da vitória que nos satisfaz. Cadê
Tutacamon?
Ei, Gisé,
Akhenaton.
Ei, Gisé,
Tutacamon.
Ei, Gisé,
Akhenaton.
Eu falei faraó. Fraternidade,
egípcia no Brasil. Em vez de cabelos trançados, veremos turbante de Tutancamon. E nas cabeças enchem-se de liberdade. O povo negro pede igualdade, deixando de lado as separações. Cadê
Tutancamon?
E Gizé?
Akhenaton.
E Gizé?
Tutancamon.
E Gizé?
Akhenaton.
Eu falei faraó. Lima!
E faraó.
É, eu clamo Lodum pelourinho.
E faraó.
É, pirâmide base do Egito.
E faraó.
É, eu clamo Lodum pelourinho.
E faraó.
É, que mara, 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 maravilha, e
Egito. Egito, e
é, que mara, 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 maravilha, e riba.
Et le temps passe vite, moins vite que le voyage de Hugues de Goers. Mais voilà, il veut tellement nous dire tout que voilà. Alors on va continuer donc après le Brésil. Deux étapes importantes ensuite, c'était Victoria et Rio. Alors
voilà, donc j'ai laissé le Nord-Est. J'ai fait une petite pause à Salvador de Bahia, où j'aurais beaucoup de choses à raconter, mais bon, on va filer. Ensuite, je me suis arrêté un petit peu à Vitoria, où une amie de Fosse d'Iguaçu m'avait mis en relation, m'a accueilli. Et à Vitoria, j'ai eu la chance d'être interviewé par la télévision nationale et d'avoir droit à 3 minutes sur TV Globo. De reportage, un reportage qui a été très très bien fait sur la première partie, enfin la partie de mon voyage me conduisant jusqu'à Vitoria.
Comment vous avez fait en 3 minutes?
C'est pas moi qui ai géré. Ne parlant pas portugais, en fait, c'est le journaliste qui a présenté le voyage d'une façon très très bien faite. Et voilà, et moi j'ai simplement...
Donc une télévision, c'est plutôt sympa ça quand on fait un voyage
comme
ça.
Oui, et surtout ça m'a donné la possibilité de... En fait, ça a été diffusé uniquement sur l'état de l'Espirito Santo. Ça m'a donné la dimension et la portée de ce qu'est la télévision. Car dès le lendemain, quand j'ai repris ma route sur mon chemin, il y avait plein de voitures qui klaxonnaient, qui me montraient, qui disaient « Waouh, c'est le français, c'est le français !» Et le lendemain soir, j'étais un petit peu plus au sud... Je m'embarquais toujours de nuit sur une route qu'on m'avait pas trop conseillée, mais comme j'avais, enfin, un peu déconseillée, mais comme j'avais pas trouvé de quoi dormir, je me dis, je vais quand même m'avancer un peu. Et là, dans le noir, il y a des gens qui m'ont reconnu et qui m'ont dit, waouh, c'est le français, c'est le français. Et ils m'ont expliqué qu'il fallait surtout pas que j'aille plus loin, que j'allais courir de gros risques. Ils m'ont ramené en arrière dans la ville où je me trouvais. Mm-hmm. Et donc, évidemment, j'ai fait un bar, deux bars, j'étais là. L'animation locale. Et puis pour en finir, ils m'ont confié un jeune qui m'a trouvé un hôtel qui convenait parfaitement à ce que je cherchais. C'est marrant. Et donc ce contact avec la population, je l'ai eu pendant 2-3 jours, le temps que j'étais encore sur l'état de l'Espirito Santo. Après, je suis passé sur l'état de Rio. Et là, c'était un peu différent. Voilà, donc on va passer tout de suite à Rio. À Rio, donc, une amie de l'ami de notre amie m'a accueilli dans son appartement dans le quartier de Flamengo, à Rio. Et là, c'était formidable, donc, parce qu'on m'a prêté une moto en France. Je fais de la moto et j'ai visité pendant une petite semaine Rio en moto.
Tout seul sur la moto?
Non, avec l'ami de Vitoria. Le premier soir, on était sur Copacabana avec la moto. C'était, voilà. J'ai eu la chance aussi de rencontrer là-bas pas mal de monde. Rencontrer un Français qui est le chef de l'hôtel Sofitel, qui se préparait à accueillir, je crois que c'était pour la Coupe, juste à la veille de la Coupe du Monde. Il avait, je crois que c'est la Fédération française, je crois, qui avait loué tout l'hôtel pour... voilà, c'était la grosse préparation de la Coupe du Monde. Je suis monté jusqu'au Christ avec mon vélo pour y faire quelques photos. J'ai visité le pain de sucre. Voilà. Et après Rio, j'ai repris ma route. Petite pause sur l'île d'Ila Grande, où j'ai mis mes chaussures pour faire un petit peu de montagne. Je suis monté ici, là au Pico de Papagaio, magnifique point de vue d'où on perçoit la côte jusqu'à 100-200 km au nord, pratiquement jusqu'à Rio. Cette côte est quand même très, très montagneuse. En vélo, avec mes kilos, j'ai parfois souffert dans les côtes quand même.
Combien de kilos le vélo au total?
40, environ 45 kilos.
45 kilos, poids total.
Poids total. Voilà. Voilà. Donc après Rio, Curitiba. Mais j'ai rencontré du monde tous les jours. En fait, tous les jours. Je n'ai jamais été dans ce voyage une demi-journée seule. J'ai rencontré des cyclistes, j'ai rencontré des gens qui sont devenus aujourd'hui des amis, qui doivent venir en France dans quelques temps et qui viendront faire du vélo ici, qui ont le même profil que le mien à la sortie de Rio. Un jeune m'a dit, tiens, vous avez le même profil que mon père, il faut que vous le rencontriez. Je suis allé chez lui, j'ai dormi chez lui, j'ai été accueilli. Le lendemain, ils sont revenus faire du vélo avec moi. 30 ans d'armée, le même âge, entré à l'armée à 17 ans, passion aujourd'hui. Le vélo rando, c'est étrange. Et ce monsieur avait un frère qui était un peu plus loin, à Curitiba, 500 km plus au sud, qui m'attendait, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, donc de là, Curitiba. De Curitiba, je suis... Là, j'ai quitté un petit peu le chemin des avions. Je suis parti vers les chutes d'Iguassu, fosse d'Iguassu, ce qui m'a conduit à partir de là ensuite, à passer un peu en Argentine, revenir un peu au Brésil... et traverser tout l'Uruguay. En fait, après avoir quitté Iguassu, j'ai dépassé mes 3 mois de présence au Brésil, et quelque part, ils m'ont mis dehors. Quand j'ai voulu repasser à la frontière pour traverser un tout petit coin du Brésil pour gagner une route qui était plus facile pour descendre tout le Paraguay jusqu'à Montevideo, ils ont marqué sur mon passeport 2 jours. Ils m'autorisaient 2 jours pour rentrer au Brésil, traverser, gagner la frontière de l'Uruguay et quitter le pays. Mais j'y suis revenu un petit peu après et ça n'a pas posé de problème.
Alors, la suite, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter encore avant le gong?
Il nous reste combien?
Il nous reste un petit quart d'heure.
Un petit quart d'heure. Bon, alors je vais quand même, pour la suite, j'ai traversé tout l'Uruguay, un pays d'un calme extraordinaire, très peu de forces de police, un pays où tout semble serein. En fait, c'est un pays dans lequel il y a 3 millions d'habitants, qui est, je ne sais pas, les 3/4 de la France, peut-être, à peu près, en gros 600-700 kilomètres sur le niveau des diagonales. La population est concentrée entre Montevideo et les villes balnéaires qui se trouvent sur la côte à proximité. Et dans le reste du pays, il y a les villages. En dehors des villages, personne. D'immenses zones de culture et d'exploitation forestière. Le pays est vallonné du nord au sud, sans haute montagne, mais partout des gens calmes, sereins, accueillants. Vraiment d'une gentillesse assez, assez surprenante. Sans stress. Après le Brésil, qui est un pays où on sent une excitation, une énergie partout où l'on passe, on est même parfois même agressé par le bruit, par cette vie qui court, qui explose partout. C'est vraiment le pays du calme. Voilà. Donc, à Montevideo, j'ai eu la chance de rencontrer encore quelques militaires dans le cadre de mon cheminement sur les avions de l'aéropostale. Je voulais visiter le musée Saint-Exupéry de Montevideo quand je suis arrivé. Malheureusement, on m'a expliqué le musée in the box. Et j'ai compris que, en fait, le musée était en train d'être déménagé et il était dans des caisses sur des semi-remorques.
Ah, d'accord.
J'ai pu voir 2-3 équipements de l'époque. Et par contre, j'ai rencontré un officier qui gérait le musée, qui connaissait absolument, ancien de l'armée de l'air, qui connaissait vraiment tous les détails de l'épopée de l'aéropostale. Donc j'ai passé là aussi, j'ai fait des rencontres intéressantes. Ensuite, j'ai fait encore une pause à Buenos Aires où j'ai pu vraiment visiter les plus belles choses de la ville. Je repris la route nationale 7 de Buenos Aires vers Santiago, en passant par Mendoza. Voilà, traverser toute l'Argentine. Et je suis arrivé donc, comme c'était prévu, tout simplement à Santiago du Chili. Santiago du Chili étant à 150 km de l'océan, j'ai pris le temps quand même d'aller jusqu'à l'océan, faire une photo du vélo. Et là, je peux vous assurer que c'est une sensation vraiment étrange d'arriver avec son vélo qui vous a porté jusque-là sans problème, sans difficulté, comme si vous arriviez vraiment du village à côté et vous êtes face à l'océan, à Pacifique, c'est plus l'Atlantique. Avec, comme je disais, devant l'île de Pâques au loin, sûrement. Voilà, et de ça, je suis remonté jusqu'à Santiago et rentré vers mon pays. Voilà. Donc, pour la suite, j'avais comme idée de continuer au départ, de boucler l'océan. C'est-à-dire, à partir de Santiago, Valparaiso, remonter toute la cordillère. Ah oui, je ne vous ai pas parlé du passage de la cordillère. Ça aussi, c'est un moment que j'aurais pu raconter. Surpris par la facilité des conditions dans lesquelles j'ai traversé.
Oui.
J'ai eu un problème technique, rupture de
rayon cassé,
de rayon cassé qui m'a obligé d'attendre un petit peu. Quand je suis arrivé, la route était fermée. On m'avait annoncé qu'il y aurait peut-être une semaine de fermeture parce qu'il avait neigé quand même pas mal. Et le temps que je fasse réparer le vélo, j'ai visité à pied une montagne magnifique. Donc j'ai passé de beaux moments. Et quand je me suis présenté au niveau des cols, pour passer, il y avait de la neige sur les bords, mais la route était au noir, soleil comme chez nous, vraiment un magnifique soleil d'hiver. Et j'ai passé la cordillère, en gros, comme si j'avais un petit peu plus que le col du Lautaret. Voilà, en gros, voilà, c'est vraiment pas de difficultés particulières, pas du tout les difficultés que j'imaginais lorsque je réfléchissais un petit peu à ce voyage. Voilà, donc je reviens à la suite du voyage. La suite de mes projets, pardon. Au départ, j'avais l'intention de remonter vers l'équateur et de finir à New York, parce que ça m'aurait fait un lien entre les avions, l'époque, les pionniers, le monde de tout ce qu'il y a de plus moderne aujourd'hui. Mais là, maintenant, j'ai l'intention, en fait, de repartir, je pense que ça se fera 2016, de repartir du Chili, point de départ à fixer, a priori autour de Santiago, de remonter justement toute l'Amérique du Sud, peut-être passer un peu en Bolivie, découvrir l'Équateur, la Colombie, l'Amérique centrale, les États-Unis, et je me disais, tiens, ce serait peut-être bien en fait de finir au Canada, du côté de Québec, il y a des gens que je connais là-bas, éventuellement, qui pourraient voilà, ce qui pourrait être un but. Et puis en regardant la carte, je me suis dit non, moi j'aime pas le bateau, il faut faire au plus court avec le bateau, donc il va falloir que je retrouve un bateau. Mais le plus court pour revenir, c'est quand même Saint-Pierre-et-Miquelon. Déjà, Saint-Pierre-et-Miquelon, on est en France, et Saint-Pierre-et-Miquelon, la pointe de la Bretagne, il ne doit pas y avoir beaucoup plus que peut-être 4000 km. En fait, beaucoup moins que pour aller vers les Antilles, pas beaucoup plus que ce que j'ai dû faire pour traverser l'océan du Sénégal au Brésil. Voilà, donc ça tourne dans un petit coin de ma tête. Comment ça se déclenchera, bon, je ne sais pas, mais les choses sont en train quand même de se préciser. Et suite aux petits articles qui ont été faits et publiés après le rendez-vous Pointy Point Presse que j'ai eu à la mairie de Digne il y a quelques temps, j'étais à Grenoble, dans ma famille, et j'ai reçu un coup de fil d'un journaliste de France Télévisions qui est à Saint-Pierre-et-Miquelon, et qui m'a dit, mais quand est-ce que vous arrivez? Donc, on a tout de suite pris un bon contact. Je lui ai expliqué ce que j'avais l'intention de faire. Il m'a pris un interview en direct, qu'il a diffusé. Et il s'est lancé dans la recherche d'un bateau pour que je puisse trouver un voilier pour rentrer. La bonne période, ce serait fin août-septembre 2016, de Saint-Pierre-et-Miquelon vers la France. Donc, je relance un appel ici. Hein, si quelqu'un me mettait en relation avec un marin qui faisait la traversée dans cette période. Voilà, à partir de là, le voyage, à mon avis, se remettra vite en route.
Comment vous êtes revenu de ce voyage-là? Vous dites, ce qui vous motive surtout, c'est plus le contact, c'est le fait d'être à l'air. Vous êtes quelqu'un qui aimait être dehors le plus souvent possible, être en action, en mouvement. Mais les contacts, on s'attache. Vous avez rencontré énormément de monde. Il y a ceux que vous aviez projeté de rencontrer au cours de ce voyage. C'est important aussi d'avoir des points de chute.
Très important, oui. De toujours pédaler vers quelqu'un que l'on connaît quelque part, voilà. Même si c'est dans 15 jours, si c'est dans un mois, je ne pars pas comme ça dans l'inconnu.
Voilà. Il y a quelques connaissances, donc un peu dispatchées. Et alors, avec les nouvelles connaissances, vous étiez, je me rappelle, chamboulé lors du premier voyage jusqu'au Sénégal. Vous avez eu un peu de mal à vous réadapter. Il y a beaucoup de choses qui vous ont surprise. C'est que les gens peuvent vivre avec trois fois rien et être heureux. C'est ça qui vous avait marqué le plus.
Oui, tout à fait. Par contre, cette fois-ci, je dirais que oui, il m'a fallu encore du temps pour revenir dans mon monde où tout est organisé, structuré, assurance partout, impôts à payer, taxes diverses, obligations, réglementations européennes. C'est un monde un peu particulier par rapport à ce que le monde du voyage tel que je vis. Par contre, j'ai quand même été moins secoué que lors du précédent voyage parce que je reviens d'Amérique du Sud et comme je le disais tout à l'heure, j'étais très surpris de trouver un pays, des pays, que ce soit le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, des pays vraiment européanisés, enfin de culture européenne. Alors que quand on est en Afrique, on est vraiment dans un autre monde. Oui. Donc le retour était peut-être un peu moins dur sur ce plan, la réadaptation. Oui. Par contre, oui, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde tout au long de mon trajet. D'ailleurs, je repars d'ici peu vers le Brésil pour un petit voyage.
Alors, j'imagine que vous êtes revenu avec des photos plein l'iPhone, je ne sais pas ce que vous aviez, et peut-être un diaporama à faire voir. C'est ce que vous aviez fait lors du premier voyage? Oui. Est-ce que c'est prévu, ça?
Non, parce que je n'ai pas le courage de...
ça demande du
j'ai
travail
peut-être
aussi.
Pas le courage de m'y mettre. La dernière fois, ça avait été très dur, mais je m'étais engagé. Comme ça, quelqu'un m'avait dit, tiens, on te réserve un créneau dans le cadre de telle organisation. Donc, j'ai dit oui. Et puis, à partir de là, j'étais obligé d'aller au bout. Mais résumé, déjà en une heure et demie, là, c'est quelque chose de difficile. J'ai, c'est même pas vraiment un résumé, c'est des bribes. Question photo, oui, j'ai des milliers de photos. J'ai perdu plusieurs appareils photo, mais bon, c'est toute une histoire. Concentrer un voyage sur 100 ou 200 photos, parce qu'il ne faut pas dépasser 100, 150 photos quand on fait un exposé d'une heure et demie, deux heures. C'est très, très, très dur. Très, très dur. Il me faudrait beaucoup de temps pour faire des choix, pour etc. Bon, pour le moment, je rêve bien sûr de le faire. Mais je suis pas lancé dans cette affaire-là.
Le meilleur souvenir de ce voyage, est-ce que il y en a?
Le meilleur souvenir, il est personnel.
Oui, c'est une rencontre, je crois.
Oui, voilà.
Une belle rencontre. Voilà.
Sinon, oui, des bons moments. Je dirais des bons moments d'ensemble. Ce que je me refuse un peu de dire, c'est quand on me pose la question, quel est le pays que vous avez le plus apprécié?
Oui.
Non, il n'y a pas de pays plus apprécié. J'ai traversé des pays où j'ai rencontré de partout des gens différents, des humains, mais partout des humains accueillants, des humains ouverts aux autres, des humains aimants. Et partant de là, je m'interdis quelque part de classer ou de juger. Chacun sa culture, chacun son monde.
En tout cas, l'accueil chaleureux tout le temps. Et la barrière de la langue, pas de barrière.
Très, très surprenant.
Pourtant,
très
vous,
surprenant.
Je vous ne parlez parle... peu l'anglais et pas l'espagnol.
Oui, eh bien, je me dis que peut-être que l'échange est plus fort que la langue quand on le veut. Je me suis aperçu d'une chose en Amérique du Sud, plusieurs fois, il m'est arrivé de passer, je ne crois pas une fois, là, c'était en Argentine. Je m'étais arrêté un soir dans une station de service, on m'avait prêté une petite pièce pour dormir, il y avait un routier qui était là. On a passé toute la soirée à discuter. Lui parlait en espagnol. Je ne connais pas un mot d'espagnol. Moi, je parlais en français. Il ne connaissait pas un mot de français. Mais on avait un crayon. Eh bien, il m'a expliqué son métier, ce qu'il faisait, ce qu'il transportait, les pommes de terre, son camion. Il m'a donné toutes les informations dont je pouvais avoir besoin pour traverser la cordillère, là où il fallait que je passe, là où il ne fallait pas que je m'arrête, etc. Et pour en finir, il est allé chercher dans son camion. Il avait une espèce de gros guide papier comme nos guides Michelin. Là. Mm-hmm. Il a arraché les 3 pages de mon itinéraire. Il a continué à y mettre plein d'informations. Et quand je suis allé me coucher le soir, je me suis dit, mais c'est bizarre. Il ne parlait pas un mot de français. Et on n'a pas arrêté de se... On s'est compris.
Il y a eu des dessins.
Je crois que quand on a la volonté d'échanger, bon, puis après, avec nos langues, il y a quand même beaucoup de mots qui sont proches. Il y a aussi le webphone qui m'a beaucoup aidé avec le traducteur, donc on arrive quand même à dire pas mal de choses. Mais je crois que l'important, c'est de vouloir échanger. Il m'est arrivé parfois d'être comme un mur par rapport à la langue. Mais chaque fois que j'étais face à un mur par rapport à la langue, en fait, j'étais en face de quelqu'un qui n'avait pas envie de me parler. Ce n'est pas arrivé très souvent. Mais je me suis vraiment rendu compte que si on veut vraiment communiquer, si on veut vraiment échanger, on arrive à échanger. Ouais. Et la langue n'en a pas été, j'étais étonné, la langue n'a pas été une barrière infranchissable. Le fait de ne pas maîtriser les langues des pays que j'ai traversés ne m'a pas tellement gêné. Bon, c'est vrai que toute l'Afrique, on trouve des gens parlant français. C'est dommage, bien sûr, si je maîtrisais l'arabe, le portugais et l'espagnol, le voyage aurait été encore d'une autre dimension, j'en suis sûr.
Donc le premier voyage, c'était, ça vous avait donné envie de retourner au Sénégal. Là, vous êtes allé jusqu'à Santiago du Chili et vous avez envie, pas nécessairement de retourner cette fois jusqu'à Santiago du Chili. Vous avez envie de changer un peu d'horizon.
Oui, mais comme je disais tout à l'heure, j'irai à Santiago. Je finirai le voyage que j'ai commencé, j'irai à Santiago en avion et je finirai ma boucle en vélo. Après, je ne sais pas, je prends tellement de plaisir sur les côtes africaines. Après, il faut savoir s'ouvrir aussi. Peut-être qu'un jour, j'irai un peu plus loin du côté de l'Asie. Je ne sais pas, j'y suis allé en voyage, mais pas à vélo. Je ne connais pas l'Asie.
Donc, les projets, toujours deux voyages. Rien ne vous arrêtera. Même pas, vous avez des petits-enfants depuis peu.
Oui.
C'est aussi un changement.
J'ai deux enfants, deux petits-enfants qui vivent à Hambourg, que j'ai parfois sur Skype. Et depuis quelques jours, un nouveau petit garçon du côté de ma fille à Briançon. Voilà.
Alors, est-ce que vous allez les initier au goût du voyage, en tout cas?
Ce qui est étonnant, par rapport à faire cette réflexion, parce qu'on me l'a fait souvent, on me dit, mais quand tu pars 7 mois comme ça, tu vois personne, tu vois plus ta famille. Je suis rentré en quelques jours. J'ai vu toute ma famille, mes frères, mes sœurs, mon père qui est encore là, mes enfants, comme si je n'étais pas parti. Et quelque part, avoir quelque chose à raconter, toutes ces histoires, je pense que c'est aussi riche, c'est aussi riche que de se voir tous les jours et n'avoir peut-être pas forcément... chacun voit à sa façon, mais n'avoir peut-être pas beaucoup, beaucoup de choses à échanger, à raconter. Par exemple, ma petite fille, qui a 5 ans, me demande qu'une chose... Elle voudrait avoir, c'est un truc tout bête, elle voudrait avoir des noix de coco vertes. Parce qu'au Brésil, tout au long du chemin, je trouvais des noix de coco, comme on trouve des pommes ici. On les achète pour presque rien, on les trouve même sous les arbres, le long de la route. On les ouvre et il y a un bon jus de noix de coco dedans. Et là, j'y retourne, j'espère pouvoir lui ramener des noix de coco vertes.
Voilà, donc un beau projet qui devrait être assez facile pour vous, de ramener des noix de coco vertes. Hugues de Goers, il nous reste plus qu'une petite minute. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié, une anecdote qui vous revient?
Non, je voudrais, à la limite, en conclusion de tout ça, ce que j'aurais transmettre à tous les gens qui peuvent écouter ou qui auraient envie de partir sur des projets comme ça, je dis partez. Partez, c'est pas compliqué. Vous reviendrez, vous aurez une autre vision forcément de la vie. Et c'est pas difficile. Et ensuite, partir, ce n'est pas forcément partir au bout du monde. C'est déjà ouvrir sa porte et aller marcher devant soi. On peut marcher ici, dans les Alpes de Haute-Provence, et croiser du monde sur les chemins, c'est tout un esprit. Mais partir, c'est vraiment une autre dimension de la vie. Ouais.
Hugues de Goers, merci beaucoup de votre passage sur Fréquence Mistral. Et bien sûr, vous nous tiendrez informés de vos divers voyages à venir. Donc là, c'était digne les bains dans les Alpes d'Haute-Provence jusqu'à Santiago du Chili. 12 000 kilomètres en vélo, c'est pas rien.
Au bout d'un moment, ça semble plus... Bon, on s'y fait.
Voilà, il n'y a pas de douleur ou alors vous êtes drogué toute la journée. Comment ça se passe?
Non. Non, je 100 km par jour et tout va bien.
Bonne soirée.
Merci à vous.
À bientôt. Cette émission sera en ligne au plus tôt, je pense, dans 2 jours. Sur fréquencemistral.com dans les émissions de Digne-les-Bains. Merci, bonne soirée, au revoir.